Radio Campus 88.3. À présent, nous accueillons deux élèves du collège Alain Fournier avec leur professeur. Les élèves, elles s'appellent Aude et Lucille. Leur professeur, il s'agit de Monsieur Naudinet, professeur de sciences physiques donc au collège Alain Fournier, comme je vous le disais. Elles sont en classe de 4e et participent à un projet d'un ballon stratosphérique qui va être lancé dans les cieux. Ce sera au courant mai, à la mi-mai. Et hier, elle revient en fait du CNRS, pardon. Donc du Centre National d'Études Spatiales, je commence à dire n'importe quoi, c'est le CNES. Bref, ce projet bénéficie de plusieurs soutiens, celui de Planète Science, du CNES, de la ESCO et de la ville d'Orléans, et ils seront plus aptes que moi-même à en parler. Bonjour Monsieur Naudinet.
Bonjour.
Bonjour Aude.
Bonjour.
Alors il faut parler bien près du micro.
Bonjour.
Et bonjour Lucille.
Bonjour.
Qui Justine. Ah, Justine. Ben, j'ai demandé Lucille. Tu m'avais dit oui, c'est Justine.
Oui.
D'accord. Je suis dur de la feuille avec le casque sur les oreilles. Pardon. Comment tout cela a commencé, Monsieur Naudinet?
Alors tout cela a commencé par un appel de Monsieur Brinon, Jean-Hugues, coordinateur du réseau REP d'Orléans-la-Source, qui m'a mis en lien avec l'AESCO. Donc l'AESCO, c'est une association de bénévoles qui se trouve à Orléans-la-Source. AESCO, ça veut dire aide à l'équipement scolaire et culturel à Orléans. Donc présidé par M. Ebissou, qui voulait monter un projet en lien avec les étudiants de Polytech qui rentrent dans leur cursus d'études. Ils sont en troisième année. Et il y a 5 étudiants qui doivent faire un projet d'intérêt collectif, un PIC, qu'ils vont présenter devant leur professeur. Et donc, le PIC de ces étudiants, c'est de concevoir avec des élèves du quartier d'Orléans-la-Source, donc mes élèves, la nacelle d'un ballon stratosphérique qui va être envoyé le 17 mai dans les airs. Donc à partir de là, moi j'ai essayé de coordonner tout ça, de trouver des volontaires. J'ai eu beaucoup beaucoup de volontaires au collège Alain Fournier. J'ai ciblé le niveau 4e parce que ça rentre un petit peu dans les programmes. On étudie la composition de l'air, on étudie la pression, etc. Donc j'ai eu beaucoup de volontaires. On a fait une sélection sur la motivation. Il y avait 25 places et j'avais tellement de demandes qu'on a réussi à augmenter l'effectif à 30, plus quelques élèves qui sont donc avec moi ce matin, Justine et Aude, qui sont chargés de mission et qui vont vous expliquer un petit peu leur rôle spécifique, avec Amel qui n'a pas pu venir ce matin au cours de ces séances. Donc voilà comment est né le projet. C'est un très beau projet. Donc les étudiants viennent deux fois par mois sur le 12h30, 13h30. Donc c'est en plus des cours des élèves pour concevoir avec les élèves par petits groupes. Donc cette nacelle, il y a des capteurs aussi qui vont être mis dans cette nacelle pour faire des relevés et suivis par ordinateur. Voilà, donc c'est un beau projet. Donc le CNES finance avec Planète Science l'enveloppe du ballon qui coûte quand même assez cher, mais à notre disposition aussi des ingénieurs du CNRS que l'on a été retrouvés sur le site hier, qui apportent leur expertise dans ce projet et qui aident les étudiants à mener à bien ce projet pour que tout puisse bien se dérouler le 17 mai.
Alors, petit retour en arrière, on est au mois de novembre, vous savez que vous allez contribuer à ce projet. Monsieur Naudinet vient de nous parler justement d'une nacelle. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs, auditrices, en quoi consiste cette nacelle? Moi, je pense un petit peu à une sorte de montgolfière, ça serait le ballon, et en dessous, il y a une nacelle. Alors évidemment, il y a tout un ensemble de cordes entre les deux. Je vois qu'il y a un parachute et un réflecteur radar. Mais la nacelle, donc, c'est la partie inférieure du ballon. Enfin, elle est portée par le ballon, c'est ça?
Oui.
Oui. Et elle sert à quoi, concrètement, scientifiquement?
Donc c'est dans cette nacelle qu'on va mettre toutes des expériences. Donc les élèves, pour l'instant, ils sont pas, c'est pas encore décidé vraiment. Mais ils vont mettre quelques expériences comme un œuf ou une bouteille d'eau ou des choses comme ça pour voir comment ça va se passer avec la pression et tout. Et c'est aussi là-dedans qu'on va mettre tous les capteurs, donc d'humidité, de pression, de température et tout.
Pourquoi faire ces capteurs?
Ben, pour pouvoir mesurer, et mesurer comment ça va être une fois là-haut.
Il va partir à combien de mètres ou de milliers de mètres dans l'atmosphère, ce ballon?
Entre 20 et 25 km d'altitude. Donc la stratosphère, c'est une couche de l'atmosphère. Donc nous sommes dans la troposphère.
Oui.
La couche supérieure, il y a la stratosphère qui, dans laquelle se trouve la couche d'ozone, donc qui va entre 20 et 50 km d'altitude au-dessus de notre tête. Et donc le ballon, il devrait arriver, selon les conditions météo, entre 20 et 25 km. Et donc ce ballon, gonflé à l'hélium, donc qui est plus léger que l'air, va monter. Et puis au bout d'un moment, il va éclater quand il se sera gonflé, avec la pression qui va diminuer en montant. Donc tous ces capteurs, ça va permettre de faire des relevés, de mesures, de voir l'évolution un petit peu de l'atmosphère, de la composition de l'air, de l'atmosphère.
Ah oui, donc ils vont rentrer en orbite autour de la Terre ?
Non.
Non. Et quand le ballon il va exploser, tout va tomber ?
Il va, et alors donc après, il va y avoir un parachute.
Ah oui.
Et donc il va retomber, et puis après avec un cap, il y aura un GPS à l'intérieur pour pouvoir le localiser et aller récupérer la nacelle. Donc la nacelle, en fait, c'est une boîte, mais cela dit, il y a des contraintes, parce que pour que ça puisse monter avec ce ballon, il ne fallait pas que ce soit trop lourd, donc il y a des contraintes de masse, etc. Donc c'est vraiment des micro-capteurs, hein. On les a vus hier, après les filles pourront en parler, mais c'est vraiment des micro-capteurs, parce qu'on a des contraintes vraiment à pas respecter. Il ne faut pas que la nacelle dépasse 1,6 kg maximum, sinon elle ne le volera pas.
D'accord. Il n'y a pas de satellite à cette hauteur, à 20-25 km
Non, mais il y a des avions qui volent.
Oui.
Donc il y a un réflectoradar qui va permettre d'être localisé. Et puis ça doit être, il y a une déclaration à la préfecture comme quoi ça va partir. Donc il y a des réflectoradars qui vont permettre aux avions de le détecter pour éviter une collision. Bon, qui ne serait pas très méchante vu l'envergure du ballon, mais bon, vaut mieux éviter. D'accord. Malgré tout.
Quand il va retomber, s'il tombe dans la Loire, vous faites comment ?
Eh bien, on va aller le pêcher.
Oui, il flotte, donc il est prêt.
Oui, alors les filles vont pouvoir un petit peu décrire le.
Ah, j'imagine la conception. Le pire. Hein,
vous oui, mais vous avez raison, tout est envisageable, puisqu'on ne maîtrise pas, c'est la météo qui va guider la retombée du ballon. Alors les filles, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le matériau de fabrication de la nacelle que vos camarades ont fabriqué ?
Oud. En fait, ils ont fait une sorte de boîte avec du polystyrène et ils ont assemblé les morceaux avec de la colle forte et un peu de scotch noir et des cure-dents.
Du scotch et des cure-dents.
Oui, ça paraît un peu du bricolage, mais alors la colle est assez forte. Et donc, c'est du polystyrène. Alors, ce n'est pas du polystyrène comme on a l'habitude de voir blanc, c'est un peu plus résistant et compact. Et le polystyrène a la propriété d'être quand même assez rigide et léger, parce qu'il y a toujours ces contraintes de masse, comme je l'expliquais tout à l'heure, à respecter. Et puis, donc, tous les groupes ont fabriqué une nacelle. Alors, de dimensions et de conceptions un peu différentes. Certains ont fait des étages, etc. Et puis, là, hier, il en a été choisi une, hein, la plus rigide, la plus robuste, qui a été emmenée au CNRS pour être testée.
Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de ça, les filles, justement, des expériences que vous avez faites hier au CNRS. Qu'est-ce que vous avez fait au CNRS hier ?
On a regardé quelques expositions, on a regardé des vidéos qui montraient...
Des expériences similaires ?
Non, pas trop. Enfin, on a vu, par exemple, comment était formée une aurore boréale, enfin, quelque chose comme ça. Après, on a testé les capteurs, à quel degré ils pouvaient aller au maximum. Et...
Voilà, ils ont dans des étuves, ils ont simulé donc les températures qu'il y aura en altitude, donc jusqu'à moins 50, moins 60 degrés Celsius, pour voir si les capteurs résistaient, puisque à cette température, les piles se déchargent très vite. Et donc, il y a des petites dalles qui fonctionnent, et si alimentées par des piles, si les piles se vident trop vite, au bout d'une certaine température, les capteurs ne fonctionneront plus. Donc, hier, il a été testé tout ça au CNRS. Il y a eu ils ont étalonné aussi certains autres capteurs de pression pour être sûr que le 17 mai, tout puisse fonctionner dans des bonnes conditions.
Parce que donc, le 17 mai, c'est l'envol du ballon depuis le site du CNRS.
Oui.
C'est bien ça. Ça va durer combien de temps pour qu'il atteigne sa hauteur maximale ? Enfin, à partir de... Oui, combien de temps ça va prendre, cet envol ?
Alors, ça dure à peu près une heure.
Une heure pour qu'il aille jusqu'aux 25 km ?
Oui, ça monte assez rapidement. Puis après, il va retomber un peu plus rapidement. Ça va dépendre aussi des conditions. On ne sait pas encore à quel moment il va décoller. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent pour qu'il ne s'échappe pas trop loin. Donc voilà, on espère que la météo sera avec nous ce jour-là pour que le vol puisse se réaliser dans des bonnes conditions.
Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cette expérience scientifique ?
Moi, je trouve que c'est intéressant et je trouve ça cool que ça soit pendant notre année. Et parce que l'année dernière, les autres quatrièmes, ils n'avaient pas fait ça. Et je trouve que c'est intéressant. Ça nous apprend de nouvelles choses dans le programme et tout ça. Et voilà. Moi, à peu près pareil. Je trouve ça. Enfin, on est tombé sur la bonne année de pouvoir faire ce projet. Et puis, c'est bien pour nous parce que je ne pense pas qu'on pourra faire ça trop à d'autres moments dans notre vie, à moins qu'on travaille là-dedans. Mais voilà, je trouve ça bien.
Vous connaissiez tout cet univers de la conquête spatiale. Enfin, il ne s'agit pas de conquête, mais au moins de l'exploration spatiale.
Non.
C'est un début ?
Oui.
D'accord, ouais. Qu'est-ce que ça change des cours habituels que vous pouvez avoir en classe ?
Ben, que on n'est pas un groupe et on puisse manipuler plein de choses et... On est aussi avec des étudiants de la Polytech, donc on peut
leur poser certaines questions.
D'accord. Qui, eux, sont des spécialistes. Enfin, ils ont un niveau supérieur. Ils ont eu le bac et maintenant, ils sont dans les études supérieures. Donc, ils en savent un peu plus que vous. Oui, ça leur permet de partager leurs connaissances et puis vous, d'en profiter. Et puis, vous disiez, oui, manipuler concrètement. C'est ça aussi une approche concrète de la science physique.
Oui.
D'accord. Vous, en tant que professeur, c'est quoi l'intérêt de proposer cette activité aux élèves ?
L'intérêt, c'est de les ouvrir à une culture scientifique qu'on ne peut pas forcément apporter en classe entière. Ça permet aussi de voir comment on mène un projet sur 6 mois à peu près. C'est les éveiller au goût des sciences et essayer de leur donner des vocations scientifiques aussi, leur apporter autre chose. C'est aussi travailler en lien avec des étudiants, donc une génération un petit peu entre les élèves et la mienne. Donc il y a des rapports qui sont vraiment différents avec les élèves et que l'on peut avoir en cours classique, on va dire. Et puis c'est vrai que c'est très enrichissant pour eux et pour moi également. C'est vrai que c'est une chance pour moi de pouvoir participer et coordonner ce projet.
Et donc les élèves verront le ballon s'envoler le 17 mai après-midi depuis le site du CNRS dans le cadre de ce projet Spatio Pila 45, 45 comme le département du Loiret, j'imagine. Mm-hmm. Pila, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas.
Je ne sais absolument pas l'origine de ce
Le ballon stratosphérique des jeunes de la Source, un partenariat qui s'est fait donc entre des élèves du collège Alain Fournier, des étudiants de Polytech, il y a l'AESCO, il y a Planète Science, il y a le Centre National d'Études Spatiales, il y a le CNRS et la ville d'Orléans. Est-ce qu'on aurait oublié des personnes ?
Non, je sais qu'il y a le Lions Club aussi qui cherche à des partenaires et qui va permettre aux élèves d'effectuer une sortie en fin d'année. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Hier, j'ai vu ça avec M. Ebissou, président de la ESCO, pour qu'en fin d'année, on puisse emmener tout le groupe qui a travaillé. Je pense qu'on va les emmener à Amboise, au Clos Lucé, pour le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Donc tout frais payé pour les élèves. Donc ça leur permet encore une ouverture culturelle et de les sortir du quartier d'Orléans-la-Source. Donc oui, c'est un projet qui est très riche parce que sans ces partenaires, c'est vrai que rien que l'enveloppe et l'hélium, ça coûte très très cher. Oui. On n'aurait jamais pu fonctionner.
Et c'est surprenant de voir que déjà à l'époque, Léonard de Vinci voulait s'élever dans les airs avec des hélicoptères en bois. Enfin, il y a des expériences.
Voilà, donc on va aller voir ça de plus près à la fin de l'année, fin juin.
Les origines de la conquête spatiale, en quelque sorte.
Exactement.
Très bien, merci à vous, donc Aude, Justine et Monsieur Naudinet, professeur de sciences physiques au collège Alain Fournier, et Aude et Justine, élèves en quatrième au collège Alain Fournier.
Merci.
Bonne journée.
Merci.